France Inter.
Il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Pas de budget au pied du sapin, députés et sénateurs se quittent sur un désaccord ce matin. Il faudra donc en passer par une loi spéciale l'an prochain pour donner un budget à l'État. Explications et conséquences dans un instant. Le déficit notamment va se creuser. À suivre encore, le gouvernement qui négocie avec les syndicats agricoles la levée des barrages routiers. Parmi les arguments avancés, le traité avec le Mercosur est gelé jusqu'en janvier. Et nous verrons que les Allemands ne digèrent pas l'opposition française. Nous en parlerons également avec notre invité. Et puis nous serons à Moscou. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Où Vladimir Poutine rejette toute responsabilité dans la guerre.
Nous ne sommes pas responsables de la guerre, nous sommes prêts à discuter, mais la balle est dans le camp du régime de Kiev. Vladimir Poutine, sans surprise, inflexible depuis 3 heures de conférence maintenant, et ça dure encore.
A tout de suite Sylvain pour vos précisions. Nous parlerons également de ces 1000 tonnes d'uranium qui ont disparu au Niger et de ce danseur de 91 ans, ancien mineur, qui passe ses soirées à danser dans les bars de Metz. À partir de 13h30, toutes vos questions sur l'investigation à Radio France. Benoît Colomba, le patron de la cellule investigation, est l'invité du rendez-vous de la médiatrice. 13h50, c'est la France, une championne qui a appris à dompter les vagues à Ouistreham. Portrait de la windsurfeuse Justine Lemétayer. Ce sera avec l'écrivaine Virginie Troussier. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le chanteur Esteban demande « Don't worry, be happy ».
Ma copine, dès qu'elle me sent un peu soucieux ou si on se prenait la tête, elle passait le morceau. Et puis tout de suite, y a un côté, t'as pas du tout envie de t'embrouiller quand il y a ce morceau qui passe.
Et ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
La méthode avait fonctionné pour le budget de la Sécurité sociale. Cela n'a pas été le cas pour le budget de l'État. Ce matin, la commission mixte paritaire, composée de députés et de sénateurs, n'a pas réussi à trouver un accord sur un texte. Conséquence, pour la deuxième année de suite, ce budget ne sera pas voté avant le 31 décembre. Cela devient donc une habitude, même si cela reste exceptionnel. Ça nécessite donc quelques explications. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Jérôme, vous êtes en direct de l'Assemblée. D'abord, il faut dire que tout est allé très vite ce matin.
Oui, les débats ont tourné court, à peine une demi-heure, échec par anticipation pour le rapporteur général du budget, le député LR Philippe Juvin.
Nous étions près d'un compromis. Nous ne sommes pas, en revanche, assurés que le texte sur lequel nous aurions pu aboutir aurait pu avoir et le vote positif de l'Assemblée et le vote positif du Sénat.
Jour triste pour la démocratie parlementaire, ont estimé les socialistes, mais à qui la faute? Au gouvernement, tranche Éric Coquerel, le président insoumis de la Commission des Finances.
La responsabilité première, elle n'est pas celle des deux rapporteurs, elle n'est pas celle des deux assemblées, elle est celle de l'exécutif qui a imposé le gouvernement minoritaire, présentant des textes forcément minoritaires.
Mais le RN et son député Jean-Philippe Tanguy accusent les partis du PS à LR.
Cette commission mixte paritaire sur le budget était un moment absolument pathétique, où en fait les partis autoproclamés sérieux, experts, avouent qu'ils sont incapables de résoudre la crise des finances publiques.
Et Matignon, surpris par cet échec expéditif, fustige les oppositions et l'intransigeance de certains sénateurs les Républicains.
Sébastien Lecornu va donc devoir en passer par une loi spéciale.
Oui, l'option était déjà sur la table depuis plusieurs jours. Ce matin, l'entourage de Sébastien Lecornu indique que le Conseil d'État sera saisi d'un projet de loi spéciale et tout va aller très vite maintenant. Conseil des ministres d'ici lundi, puis vote avant Noël et les nouvelles discussions sur le budget devraient reprendre en janvier pour encore de très longues semaines.
Pas de budget voté avant le 31 décembre. Que va-t-il se passer au-delà, Jérôme, pour les dépenses de l'État, pour les salaires des fonctionnaires par exemple?
Un tel texte permet d'assurer la continuité de l'État, impôts levés, salaires versés, mais il y aura un coût, a déjà prévenu le gouvernement. Le député socialiste Philippe Brun ne dit pas autre chose.
La loi spéciale coûtera 11 milliards d'euros. Gel de 70% des crédits, pas de subventions possibles, pas de recrutement possible, pas d'investissement possible.
Voilà ce qui sera rappelé lundi. Sébastien Lecornu va recevoir les responsables de parti pour, nous disent ses proches, vérifier qu'il y a une volonté d'aboutir.
Merci Jérôme. mal avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Dernier chiffre de l'INSEE ce matin. La dette publique française s'est encore creusée. Elle s'élevait à 3 482 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre, soit 117,4% du PIB. C'était 2 points de moins au trimestre précédent. Quant à la croissance, elle devrait atteindre 0,9% cette année. C'est mieux que prévu. Autre dossier brûlant pour le gouvernement, en plus de ce budget de l'État, les blocages des routes par les agriculteurs, toujours opposés à l'abattage systématique des troupeaux, au premier cas de dermatose nodulaire, mais aussi à l'accord Mercosur, même si cet accord a été mis en pause. Le gouvernement demande donc que ces barrages soient levés. C'est déjà le cas, par exemple, sur l'autoroute A20, au nord de Montauban. Ce sera bientôt le cas au péage de Saint-Martin-Bellevue sur l'A41 en Haute-Savoie. C'est ce que nous dit Christian Convert, le coprésident de la coordination rurale des Savoies.
On va casser la croûte tous ensemble et on va quitter les lieux parce que la circulation est en train de s'intensifier. Donc on avait dit qu'on n'était pas là pour embêter les gens qui venaient passer un séjour chez nous. Ce n'est pas notre but de les embêter. Ils n'ont pas payé les conneries du gouvernement. Ils les payent déjà comme nous à longueur de journée. Pour bon nombre, de toute façon, ils partagent notre avis, c'est ce que je dis. Nous, on est sur là depuis 48 heures. Rien que ce qu'ils nous ont apporté à manger, on pourrait tenir une semaine. On a assez de victuailles pour ça avec tout ce qu'ils nous apportent. Donc, on voit bien que la population est derrière nous, donc on n'a pas lieu de l'embêter. Ce qu'on a aujourd'hui à régler les comptes, c'est le gouvernement. Donc, on va quitter des lieux là début d'après-midi, que tout rentre dans l'ordre. Et puis, de toute façon, on entend tout doucement la suite des rencontres du gouvernement. Ils ne veulent même pas donner le moindre signe, notamment sur la dermatose, qui est un point essentiel pour notre département. Donc on peut se dire rendez-vous début janvier.
Christian Convert au téléphone de Mathieu Bonnour. Sur la dermatose, justement, le ministère de l'Agriculture a donné quelques chiffres ce matin. Pas de nouveaux foyers de contamination en France depuis lundi. 100% des bovins vaccinés dans les Pyrénées-Orientales. 60% dans le département de l'Aude. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Luc, vous êtes à Matignon pour Inter. Les syndicats agricoles y sont reçus toute la journée et c'est la première fois qu'ils le sont depuis le début de cette crise par le Premier ministre. Premier syndicat agricole, la FNSEA, qui met un ultimatum en fait dans les mains de Sébastien Lecornu.
Oui, Arnaud Rousseau a réclamé de la part du Premier ministre une lettre envoyée d'ici ce soir listant sa position sur différents sujets sur l'avenir de l'agriculture en France, le Mercosur, la gestion de l'eau ou encore la prédation, et qu'en fonction seulement du contenu de ce document, il appellera ou non à lever tous les blocages, le président de la FNSEA qui se veut très ferme.
Tant que nous n'avons pas ce courrier en main et que les choses ne sont pas écrites, parce que vous savez, les paroles passent mais les écrits restent, nous continuons à avoir un réseau mobilisé, c'est déjà le cas dans plusieurs départements. Notre objectif n'est pas d'ennuyer les Français qui vont partir partager des moments de convivialité. Nous, on n'est pas dans cet esprit du blocage, mais qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas des engagements précis et concrets. Et donc, vous avez compris que ce courrier sera décisif.
Et sur la dermatose, Arnaud Rousseau a redit faire confiance à la science et à l'ensemble du corps vétérinaire. Discours plus apaisé du côté des jeunes agriculteurs. Son président Pierre Corel se dit certes combatif, mais appelle à faire une pause dans la mobilisation.
Pendant les fêtes, nous ne nous mobiliserons pas chez Jeunes Agriculteurs pour la simple et bonne raison qu'on va respecter la trêve de Noël pour nos concitoyens et puis pour être tout à fait transparent avec vous, pour nous aussi parce qu'on mène des combats qui sont durs, on reste à la manœuvre mais on reste aussi et avant tout des êtres humains.
Mais croyez-moi, à la rentrée, on va se revoir, promet le président des JA. En ce moment, 8 représentants de la coordination rurale, dont son nouveau président, sont reçus par Sébastien Lecornu. Suivra la Confédération paysanne qui exige notamment contre la dermatose de vacciner l'ensemble du cheptel bovin en France. Un nouveau rendez-vous entre les syndicats et le Premier ministre a déjà été fixé pour début janvier.
Luc Chemla devant les locaux du Premier ministre à Paris avec les moyens techniques de Benjamin Reyes. Vous nous parliez, Luc, justement de ce syndicat. La coordination rurale, eh bien, il est visé par une nouvelle plainte déposée par l'association Vienne Nature, car hier matin, la vingtaine d'employés a découvert une centaine de pneus dispersés devant le portail d'accès de leurs locaux à Fontaine-le-Comte, en Vendée. Action revendiquée. Jules Boisseau est juriste au sein de l'association. Il réagit au micro d'ici Poitou.
Ça a été 3 bennes d'ordures qui ont été vidées devant les locaux et sur le terrain du local de l'association. Il faut se figurer un tas qui va jusqu'à 3 mètres de haut au plus haut et qui s'étale sur plusieurs dizaines de mètres carrés. Il y a des phrases où ils se vantent voilà, bienvenue chez les escrolos et d'autres menaces et insultes par rapport à nos activités associatives. Personnellement, je suis très choqué. Je pensais pas voir ça de ma carrière en association de protection de l'environnement. On a des positionnements qui sont quand même convergents sur l'export, par exemple, le Mercosur ou d'autres sujets, mais ouais, on a du mal à comprendre cette réaction. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on défend les milieux aquatiques, on défend l'eau, et s'il y a plus d'eau, il y a plus d'agriculture non plus. Donc là encore, on a des intérêts qui peuvent être tout à fait convergents. On protège les générations futures d'agriculteurs, en fait.
Voilà, après cette action des agriculteurs à Fontaine-le-Comte, département de la Vienne, où il y a eu une nouvelle action toujours de ce syndicat Coordination Rurale. Ce matin, action coup de poing au péage de Chasseneuil-du-Poitou. Selon la préfecture, un escadron de gendarmerie a été pris à partie. Le préfet a déposé plainte pour violence volontaire. Il dénonce des dégradations importantes aux abords de l'autoroute A10. Alors, au cœur du mouvement des agriculteurs, il y a donc le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud que les 27 pays de l'Union européenne ont décidé hier soir de mettre sur pause pour un mois, alors qu'il devait normalement être signé demain au Brésil. C'est le nom de la France, puis celui de l'Italie qui a fait pencher la balance ces dernières heures, quand l'Allemagne, elle, a pesé de tout son poids pour que le texte passe. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin et les Allemands fulminent aujourd'hui.
Oui, la presse évoque une défaite pour le chancelier, une journée noire, écrit même le quotidien Die Welt, car c'est vrai, Friedrich Merz a mis tout son poids politique pour tenter de décrocher une signature, mettant même en garde les Européens. Si l'accord n'est pas signé cette semaine, alors il ne verra pas le jour. L'ultimatum du chancelier n'a pas eu l'effet attendu, alors que l'Allemagne, plus que jamais, a besoin du traité pour relancer ses exportations et son économie, en difficulté face à la concurrence chinoise et pénalisée par les taxes douanières américaines. Dans l'affrontement Paris-Berlin, c'est donc Emmanuel Macron qui l'emporte, au moins provisoirement, face au chancelier qui tente de s'imposer comme le leader de l'Europe. Ce bras de fer s'est étalé sur la place publique, ce qui plombe l'image du couple franco-allemand réconcilié et moteur de l'Europe, soigneusement mise en scène pourtant par les deux dirigeants. Malgré ce revers, Friedrich Merz se dit confiant d'aboutir à une signature le mois prochain. Après 25 ans de négociations, deux semaines de plus ou de moins ne vont rien changer. Déclaration d'un chancelier devenu soudainement pragmatique.
Sébastien Baer, correspondant de France Inter en Allemagne. Bonjour Patrick Martin-Génier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14 pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé ces dernières heures à Bruxelles entre les pays européens. Je vous présente, vous êtes spécialiste des questions européennes, professeur à Sciences Po Paris, à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Patrick Martin-Génier, l'accord Mercosur est mis sur pause. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui qu'il ne soit jamais signé ?
Non, je ne le pense pas. J'ai écouté la conférence de presse qui est intervenue cette nuit d'Antonio Costa, qui est le président du Conseil européen, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Très clairement, ils sont très fermes. Ils prennent acte du fait qu'il n'y a pas eu d'accord pour signer dès samedi cet accord sur le Mercosur. Mais ils ont été tous les deux très fermes. Cet accord est retardé. Il est retardé d'un maximum de 3 semaines, voire 1 mois. C'est bien 3 semaines qui a été indiqué cette nuit lors de la conférence de presse. Il est donc hors de question de renoncer à la signature de cet accord. Antonio Costa a dit qu'il allait regarder les différentes clauses de sauvegarde, miroir, qui visent à protéger les agriculteurs, par exemple, ou l'environnement. Mais très clairement, ce n'est qu'une pause. Et de toute façon, l'Europe, comme l'a dit Ursula von der Leyen, il y a la majorité pour adopter au mois de janvier cet accord Mercosur. Cela n'a été possible que grâce au ralliement de l'Italie à la France, mais ce ralliement n'est que provisoire et donc évidemment, lorsque tout se sera calmé, je vais dire de façon cynique, eh bien cet accord sera signé au mois de janvier.
Pourquoi il n'est que provisoire ce nom italien selon vous, Patrick Martin-Génier ?
Écoutez, moi je pense qu'elle a voulu d'une part montrer qu'elle pouvait protéger également les agriculteurs italiens, mais c'était un ralliement un peu tardif. Et surtout, l'Italie est en train de négocier un certain nombre de fonds européens, notamment pour l'agriculture précisément, mais aussi pour le pacte vert européen. C'est une démarche assez intéressée, ne pas vouloir se fâcher définitivement avec la France, tout en donnant des gages à l'Union européenne, mais aussi à l'Allemagne, parce qu'au final, c'est bien l'Italie qui a permis de retarder cela. Donc il y a des intérêts à la fois politiques et financiers, et surtout, elle veut montrer qu'elle constitue, qu'elle est véritablement une personne importante qui compte en Europe aujourd'hui, en d'autres termes, qu'elle est capable de faire la pluie et le beau temps.
Mais dans 3 semaines, si Emmanuel Macron n'est pas satisfait, il pourra toujours dire « je bloque, je mets mon veto ».
Non, il ne peut pas bloquer parce que sur l'aspect commercial, le vote intervient à la majorité qualifiée, ce qui veut dire qu'au moins 15 États doivent ratifier, qui représentent 65% de la population. Et donc, par conséquent, la France n'a pas la possibilité de mettre son veto dans la signature de cet accord commercial. Pourquoi cela a bloqué cette nuit? Tout simplement parce qu'il y avait une minorité de blocage qui représentait plus de 35% de la population et 4 pays.
Est-ce qu'on peut imaginer que ça ait des conséquences, que ça fissure l'unité des Européens, par exemple dans le dossier ukrainien, alors que l'Union est sous la pression commerciale à la fois des Américains et à la fois des Chinois ?
Oui, oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, c'est assez inédit dans l'histoire de la construction européenne. Cet accord, ce Conseil européen de cette nuit, ça a duré jusqu'à 4 heures du matin, est en quelque sorte un échec historique dans la mesure où on arrive toujours à un compromis. Alors, j'ai bien écouté les différents représentants des institutions, ouais. Notamment Mme Frederiksen, qui est la présidente de l'Union européenne, la première ministre danoise. Tout le monde parle d'un accord historique, tout le monde parle d'unanimité. En réalité, non. L'Europe s'est complètement fracturée hier et cette nuit. Elle s'est fracturée sur le Mercosur, elle s'est fracturée sur l'Ukraine, par exemple sur le prêt de 90 milliards accordé à l'Ukraine. Et donc l'Europe, et en plus de cela, des pays tels que la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, qui ne veulent plus contribuer à aider l'Ukraine. Donc on a une Europe aujourd'hui complètement divisée sur des sujets stratégiques.
Merci Patrick Martin-Génier d'avoir été avec nous dans ce 13-14 spécialiste des questions européennes, professeur à Sciences Po Paris ainsi qu'à l'INALCO. Vous avez commencé à parler, Patrick Martin-Génier, de ce dossier ukrainien sur lequel les Européens n'ont pas réussi à trouver d'accord pour utiliser l'argent des avoirs russes gelés et donner cet argent à l'Ukraine. Ils vont donc en passer par un emprunt de 90 milliards d'euros pour aider Kiev à tenir dans sa guerre contre la Russie. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Comment ça va fonctionner, Virginie ?
Alors, c'est en réalité, Jérôme, un accord à 24 qui a été obtenu. Certes, personne n'a émis de veto. Le principe d'un prêt a bien été validé à l'unanimité. Mais vous le disiez, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque se sont désolidarisés de l'emprunt. Traduction, ces pays ne participeront pas au remboursement du prêt. Hier soir, les chefs d'État et de gouvernement ont tenté de préserver l'apparence de l'unité. Cela ne change pas la donne, affirme Emmanuel Macron. Ce qui aurait été préoccupant, selon lui, c'est si un pays avait effectivement voulu bloquer la décision. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a fait hier le déplacement à Bruxelles pour convaincre justement les 27 d'utiliser ses avoirs russes, une décision juste selon lui, c'est malgré tout qu'il a évité le pire. Sans ça, l'Ukraine aurait été à court de liquidités dès le printemps. Reste que pour le moment, même si l'Union européenne dit continuer à travailler sur le sujet, les actifs russes immobilisés apparaissent toujours comme intouchables. De la monnaie sonnante et trébuchante, certes, mais l'Ukraine n'a pas reçu de la part des 27 la réponse politique qu'elle attendait.
Virginie Pironon avec Laurent Macchietti. Justement, Volodymyr Zelensky dit à l'instant, il est en Pologne, le président ukrainien, il dit à l'instant que si l'Ukraine est défaite, la Russie s'en prendra inévitablement à la Pologne. Fin de citation. Eh bien, la Russie, on vous y retrouve, Sylvain Tronchet. Vous y êtes notre correspondant, car Vladimir Poutine tenait ce matin sa traditionnelle conférence de presse annuelle. Des heures de discours durant lesquelles le président russe parle de tout, de la vie quotidienne, mais aussi des sujets internationaux. Et cette année, justement, il a décidé de commencer par la guerre en Ukraine.
Oui, un discours qui se poursuit hein, d'ailleurs depuis 3h30 bientôt. Et alors qu'en général, le président russe parle en premier des problèmes intérieurs liés à la vie des Russes, qu'il met en scène son lien avec sa population, le chef du Kremlin a d'entrée de jeu donné le ton cette année en parlant de la guerre en Ukraine, recevant un soldat, un héros du front à sa table et dressant un bilan très détaillé de la situation sur le front. Nos forces progressent sur toute la ligne de contact, a-t-il affirmé, en espérant qu'il y aurait encore des succès d'ici à la fin de l'année. Bref, la paix n'est pas dans sa ligne de mire et le président a même été droit dans ses bottes, même lorsqu'il a été interrogé sur les victimes des bombardements russes en Ukraine.
On ne se considère pas responsable de la mort de civils car ce n'est pas nous qui avons déclenché cette guerre. Cette guerre a été déclenchée après un coup d'État armé anticonstitutionnel en Ukraine en 2014, suivi d'un début d'hostilité par les dirigeants du régime de Kiev contre leurs propres citoyens du sud-est de l'Ukraine. Et après qu'on nous a menti et que les accords de Minsk n'ont pas été respectés, nous avons été obligés d'utiliser les forces armées pour mettre fin à cette guerre qui avait été déclenché par le régime de Kiev avec le soutien des pays occidentaux.
Voilà, selon une rhétorique bien rodée, le chef du Kremlin a également affirmé que la Russie était ouverte aux discussions et même aux concessions, a-t-il dit, mais sans préciser lesquelles, et en ajoutant que la balle était surtout désormais dans le camp des Ukrainiens et des Européens pour mettre fin à cette guerre.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou, l'ombre de la Russie qui plane sur la disparition de 1000 tonnes d'uranium. Nous sommes au Niger, où le groupe français Orano, ex-Areva, a longtemps exploité un gisement dans le nord du pays. Mais depuis, le régime militaire du pays a mis la main dessus, valeur plus de 160 millions d'euros, et le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête confiée à la DGSI. C'est vous qui nous l'apprenez, Yannick Falt.
Selon nos informations confirmées par le parquet de Paris, l'enquête a été ouverte au mois d'août après une plainte déposée par Orano, enquête pour vol en bande organisée dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Vu la sensibilité du sujet, les investigations sont donc confiées à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Au cœur de l'enquête, 1000 tonnes de concentré d'uranium aux mains de la junte militaire, de l'uranium civil qui était exploité par Orano sur le site d'Arlit au nord du Niger, mais le groupe français a été exproprié, le marché nationalisé par le régime qui cherche désormais à vendre l'uranium à l'étranger. Seule la Russie a manifesté un intérêt et seule la Russie peut l'exploiter selon une source au fait du dossier, alors que toujours selon nos informations, après avoir été déplacé en camion sous escorte de l'armée, l'uranium se trouve désormais à Niamey, la capitale du Niger, en vue d'un transfert possible vers le Togo en passant par le Burkina Faso, scénario qui donne des sueurs froides aux spécialistes de la région, certaines zones étant aux mains d'Al-Qaïda.
Et le groupe Orano rappelle qu'en vertu d'un arbitrage international, le Niger n'a pas le droit de vendre ni même de transporter cet uranium. Yannick Fall de nos confrères de France Info.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Il était, il y a encore quelques jours, vice-président du Rassemblement National avant de démissionner. David Rachline sera jugé pour favoritisme, décision du parquet. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Jérôme.
Le maire de Fréjus est soupçonné d'avoir favorisé la société de sécurité de l'un de ses proches dans l'attribution de marchés publics.
Et cette affaire porte sur deux contrats d'un montant total de 263 000 euros que la municipalité a passé avec une entreprise de sécurité dirigée donc par l'ancien chauffeur du maire. Contrat signé sans respect des règles de passation de marché, estime le parquet, et qui portait sur la sécurisation de plusieurs bâtiments municipaux, dont l'hôtel de ville de Fréjus. C'est apparemment cette enquête qui a poussé David Rachline à démissionner de son poste de vice-président du Rassemblement National début décembre, puisque c'était une semaine après une garde à vue décisive dans ce dossier. Ce dossier, car David Rachline fait également l'objet d'une autre enquête ouverte il y a deux ans par le parquet national financier, cette fois, sur des faits de corruption, eux aussi en lien avec des entreprises locales. Enfin, le maire de Fréjus a comparu fin septembre pour des faits de prise illégale d'intérêt lors d'un conseil municipal. Il avait assisté au vote sur des délibérations qui lui permettaient d'augmenter sa rémunération. Dans ce procès, le parquet a requis 10 000 euros d'amende. Le jugement sera rendu dans un mois.
Une solution pour les élèves du collège Champollion de Dijon, incendié au cours du week-end dernier. À la rentrée de janvier, les collégiens de la 6e à la 4e suivront les cours au sein de cet établissement, mais dans un bâtiment intact. Les troisièmes, eux, iront dans un lycée voisin. Coût des travaux au collège entre 1,5 million et 2 millions d'euros. À Besançon, une usine de traitement des métaux précieux qui travaille notamment pour les horlogers a été braqué à l'explosif. C'était tôt ce matin. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et les malfaiteurs n'ont pas hésité à ouvrir le feu pour prendre la fuite.
Oui, c'est un commando de 5 malfaiteurs qui a débarqué à 7h30 environ ce matin devant l'entrée de l'atelier de traitement de métaux précieux pour les horlogers effectivement et les joailliers de la région. Ils plaquent un explosif sur l'une des vitres de la façade, puis ils prennent en otage les salariés présents à l'intérieur et les menacent avec des armes lourdes s'ils n'acceptent pas d'ouvrir les coffres. Très vite, ils récupèrent plusieurs sacs de métaux précieux, selon nos informations, avant de s'enfuir. Entre-temps, l'alerte avait été donnée par la société Losange, elle-même ou par le voisinage, de salariés eux-mêmes. Une voiture de police de patrouille s'est positionnée en travers de l'une des rues qui mène à l'atelier, les agents étant positionnés juste derrière. En les apercevant, les malfaiteurs n'hésitent pas à ouvrir le feu. Trois balles viennent se loger dans la voiture des policiers. Il n'y a pas eu de blessés. Avant de prendre une autre rue, direction Dole ou Vesoul, pour l'instant, ils sont toujours en cavale. Des barrages de gendarmerie ont été positionnés dans tout le département. Le montant du butin est en cours d'évaluation. En juin dernier, cette société Losange avait déjà été la cible d'une tentative de braquage à main armée.
Emmanuel Leclerc, un nouveau rebondissement dans le chantier de la ligne à très haute tension de RTE en Camargue. Le but est de décarboner le port de Fos-sur-Mer. Et bien après un avis défavorable de la direction régionale de l'environnement, l'État valide tout de même ce projet de ligne aérienne à très haute tension avec une soixantaine de pylônes, dont une partie dans le parc naturel. Les opposants annoncent qu'ils vont engager des recours en justice. Le groupe Nestlé, lui, peut souffler. Bonjour Marie Dupin.
Bonjour.
C'est vous qui nous l'avez appris ce matin, vous qui enquêtez sur ce groupe et sur les contaminations de sa source de Vergèze dans le Gard. Le préfet de ce département autorise Nestlé à continuer à produire du Perrier avec l'appellation haut de gamme eau minérale naturelle.
Oui, effectivement, le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, a rendu public ce matin un arrêté préfectoral. Il accorde à Nestlé Waters un sursis pour continuer à exploiter deux forages à Vergèze pour produire du Perrier sous le label eau minérale naturelle. Pourtant, alors que l'eau minérale naturelle doit être pure à la source, le préfet reconnaît que les puits, les forages exploités par Nestlé ne le sont plus. Ils ne sont plus purs, ils sont régulièrement contaminés par des bactéries coliformes ou pseudomonas. Hein, ce sont des bactéries qui peuvent provoquer des problèmes de santé, de graves infections. La préfecture assure que les eaux de Perrier resteront sous surveillance renforcée pendant 2 ans. Un sursis de 24 mois, donc au bout desquels l'entreprise devra apporter la preuve de la pureté de ses eaux, à condition que la multinationale soit encore propriétaire de Perrier, puisque Nestlé a engagé la vente de sa filiale eau Nestlé Waters et elle cherche très activement un repreneur.
Jérôme. Explication signée Marie Dupin. Le musée du Louvre a rouvert ses portes. Normalement, ce matin, les agents ont voté la fin de la grève, mais le préavis est maintenu. Le mouvement est levé jusqu'à la fin des vacances, expliquent les syndicats. La disparition de l'un des grands noms de la télévision en France, Claude Berda, il avait 78 ans, connu notamment pour avoir cofondé avec Jean-Luc Azoulay en 1977 le groupe AB Productions, à l'origine notamment des émissions Club Dorothée ou encore Hélène et les garçons. Claude Berda était le B de ce groupe AB Productions. Qu'on se le dise avant les fêtes, il n'y a pas d'âge pour danser. Et je le prouve avec Jean. Jean a 91 ans, c'est un ancien mineur de Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, il vit à Metz et sa passion, c'est la danse. La danse n'importe où, n'importe quand, par exemple dans les bars de la ville. Diane Sprimont l'a rencontré dans sa résidence senior, juste avant une soirée dansante.
Avant de sortir, il faut que je sois impeccable, bien coiffé. Les habits, il faut que je sois bien, sinon je ne sors pas. Et puis après, je prends le miroir, je regarde à l'arrière si je suis bien, impeccable. Un allongé et original, à votre santé. Je sens que je peux danser. D'après le son de la musique. Pom, 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 pom. Parce qu'avant, je dansais que le tango, moi. Et après, j'ai eu ça dans la tête de bouger au son de la musique. Là, je bouge. Ça me détend. Je me sens bien.
Vous êtes fier de montrer dans les bars que vous dansez à 91 ans.
Ah oui, surtout s'il y a des gens qui me disent « bravo, bravo ». Ça me touche parce que je me dis souvent « tu te rends compte, tu as 91 ans et tu danses encore
». Quel exemple, Jean, notre danseur, à 91 ans. Merci à Ici Lorraine pour ce reportage. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure. On va espérer, on va tenter de garder cet esprit avec la météo dans un instant d'Elena Morna. On nous dira un mot de votre week-end également à partir de 13h30. La médiatrice de Radio France est avec nous. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jérôme.
Qui est notre invité aujourd'hui ?
Benoît Colomba, directeur de la cellule investigation de Radio France. Beaucoup de questions des auditeurs à la suite de l'enquête sur les affaires chinoises de Dominique de Villepin.
A tout de suite, 13h45, notre feuilleton sur les traces des Espagnols. espagnole arrivée en France en 1939 et de leurs descendants. Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez d'une championne des mers, une windsurfeuse.
Oui, on part à Ouistreham à la rencontre de la sportive Justine Lemétayer, double vainqueur de la Coupe du Monde de slalom foil, une discipline de planche à voile qui mêle sensations fortes et intensité.
Et avec vous, Frédéric, un chanteur.
Il est aussi acteur, il s'agit d'Esteban, très bientôt à l'affiche du film Va des rétro au cinéma. Et avec lui, nous écouterons la voix de Bobby McFerrin. Don't worry, be happy, un tube qui lui rappelle une manifestation.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Le premier est maçon, le deuxième est chauffeur, le troisième est écrivain. Trois hommes ordinaires, trois bourreaux en puissance et trois femmes qui courent pour échapper à leur violence. Dans La nuit au cœur, Natacha Appanah raconte ses vies qui basculent quand la nuit noire prend la place de l'amour.
Récompensée par le prix Femina et le Goncourt des lycéens, La nuit au cœur est le livre événement de cette fin d'année. La nuit au cœur de Natacha Appanah, un livre puissant et sensible aux éditions Gallimard.
Ne pas attendre. Où qu'ils soient, les enfants gravement malades ne devraient pas attendre pour se faire opérer. Surtout quand leur vie ne tient qu'à un fil. Aidez la chaîne de l'espoir à les sauver. Plus vous donnez, moins ils attendent. Donnez à la chaîne de l'espoir sur chaînedelespoir.org. 75% du don déductible des impôts.
France Inter présente la nouvelle édition de On va déguster Paris de François-Régis Gaudry et ses amis.
L'encyclopédie qui raconte les lieux, les personnages, le terroir et les grandes recettes parisiennes s'enrichit de nouvelles adresses, des meilleures tables et commerces de bouche. On va déguster Paris
de François-Régis Gaudry et ses amis, un livre France Inter.
Pour croquer la capitale à pleines dents.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elena Morna.
Bonjour.
Le sud-est est sous surveillance.
Oui, en raison des fortes pluies qui vont s'intensifier entre l'Hérault, le Gard et les Cévennes. Météo France annonce l'équivalent d'un mois de pluie d'ici ce soir, avec la pluie du vent marin et quelques flocons sur les Alpes du Sud au-delà de 2000 mètres. Ailleurs, c'est un ciel nuageux avec quelques averses entre les Ardennes et le Pays Basque, de la neige sur les Pyrénées-Atlantiques, plus clair sur le nord-ouest et toujours quelques rafales de vent sur le littoral breton et normand. Côté température, c'est toujours bien doux avant un net rafraîchissement pour demain.
Elena Morna.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Comme chaque mois dans ce 13-14, le rendez-vous de la médiatrice des antennes de Radio France. Vous lui écrivez, elle donne la parole à un responsable de l'antenne qui vous répond en direct. Emmanuel Davier, notre invité aujourd'hui est Benoît Colomba. Bonjour Benoît.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Directeur de la cellule Investigation de Radio France. Emmanuel, l'enquête sur les affaires chinoises de Dominique de Villepin a beaucoup fait réagir nos auditeurs.
Oui, la cellule Investigation de Radio France s'est plongée dans les voyages et déclaration de Dominique de Villepin depuis son départ de Matignon en 2007, des conférences rétribuées par les autorités chinoises, un travail de conseil auprès de plusieurs entreprises et une proximité affichée avec le président chinois. Première question, Benoît Colomba, pourquoi avoir choisi d'enquêter sur les activités de Dominique de Villepin en Chine ?
Eh bien d'abord parce qu'il se présente lui-même comme un candidat probable à la prochaine élection présidentielle. Il vient d'ailleurs d'inaugurer les locaux de son parti, la France humaniste. Et ensuite, eh bien parce que c'est important de savoir d'où il parle. Il a une société de conseil, Villepin International, mais il est toujours resté discret sur ses clients. Il était donc légitime de questionner la nature de ses activités. Pour qui travaille-t-il ? Dans quel pays ? On a beaucoup parlé du Qatar. Élodie Guéguin et Géraldine Allot ont enquêté. Et c'est donc en Chine qu'elles ont découvert qu'il était très présent.
Alors pour autant, des auditeurs souhaiteraient savoir ce qui, dans ses déplacements ou interventions, justifiait un travail d'investigation.
Ben, d'abord le fait que justement ses activités jusqu'à présent, elles n'étaient pas connues du grand public et contrairement à ce qu'a pu dire Dominique de Villepin après la publication de notre enquête, tout n'était pas sur Internet, loin de là. Nous avons pu documenter une cinquantaine de déplacements ou d'interventions de l'ancien Premier ministre en Chine. En tant que président d'une association qui regroupe des chefs d'entreprise de la zone Asie-Pacifique, il a notamment participé à deux conférences en décembre 2008, deux conférences prises en charge par les autorités chinoises et payer l'équivalent de 94 000 euros. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Révélation.
Et de la même façon, toujours selon ce document, ce sont les provinces chinoises qui ont pris en charge les frais de déplacement, comme nous le confirme le général Queneau.
les conditions de voyage en particulier. Ils voyageaient en première, moi je voyageais en business.
Les frais d'hébergement étaient pris par le gouverneur de la province ou c'était l'association ?
C'était l'association, mais qui profitait des fonds que lui avait donné le gouverneur de la province.
Dans le cadre de son mandat de président de cette association, Dominique de Villepin a multiplié les visites touristiques, y compris dans une nurserie de pandas où on le voit posé avec un animal de 43 kilos sur les genoux. Cette séquence, elle a beaucoup plu en Chine. Le général Keno était à ses côtés ce jour-là.
Il voulait exister et il voulait se rendre, sinon indispensable, mais précieux auprès du gouvernement central. Si vous n'êtes pas bien avec le pouvoir central, vous ne faites pas d'affaires en Chine.
Voilà, et de son côté, Dominique de Villepin répond que ce genre d'intervention participe, je le cite, d'une volonté de mieux comprendre le monde et en l'occurrence la deuxième puissance économique mondiale.
Tout de même, Benoît Colombat, plusieurs auditeurs estiment qu'il ne s'agit que de conférences ou de relations diplomatiques classiques comme peuvent en avoir d'autres dirigeants.
Oui, un auditeur a écrit « Quel objectif poursuivez-vous avec votre émission sur Dominique de Villepin ? Il a donné des conférences, il a parfois été rémunéré et alors d'autres présidents ont fait de même. Il a des contacts avec la Chine, Jean-Pierre Raffarin. N'en a-t-il pas aussi ? Notre président actuel ne s'est-il pas rendu en Chine avec tous les honneurs ? Benoît Colombat, quels sont les éléments qui différencient, selon vous, le cas de Dominique de Villepin des autres ?
Alors, encore une fois, on parle là d'un probable futur candidat à la présidentielle. C'est donc un cas de figure un peu différent d'un ancien responsable politique qui, a priori, n'a plus d'ambition sur la scène nationale, même si, bien sûr, ça peut aussi poser question. Je pense par exemple à d'anciens chefs d'État qui monnayent leurs interventions. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, que vous citez, se rend effectivement régulièrement en Chine et il est d'ailleurs mandaté officiellement par le gouvernement français pour ça. Mais ce qu'on a aussi relevé dans le cas de Dominique de Villepin, c'est le discours élogieux qu'il tient vis-à-vis des autorités chinoises. Écoutez par exemple son intervention à la télévision chinoise en 2017, lors du 19e congrès du Parti communiste chinois. Il s'exprime en anglais.
À un moment où nous assistons à une évolution très inquiétante des États-Unis qui se retirent de la scène internationale et deviennent davantage un problème pour le monde qu'une solution, nous avons besoin d'une Chine forte. Et c'est peut-être le message le plus important de ce 19e congrès du parti. La Chine est de retour. Et elle est de retour pour de bon.
Et j'ajoute que Dominique de Villepin est également très enthousiaste vis-à-vis des nouvelles routes de la soie. C'est le projet phare du président Xi Jinping. C'est un immense projet d'infrastructure et de télécommunication destiné à promouvoir les produits chinois. Sauf que les financements mis en place par Pékin ont fait exploser la dette de nombreux États avec des morceaux de territoire qui passent sous pavillon chinois, ce qui quand même pose un problème. On a également noté que Dominique de Villepin n'abordait jamais le sort des Ouïghours ou des Tibétains dont les droits sont bafoués par Pékin. Alors Dominique de Villepin explique lui qu'il le fait bien, mais pas en public. Bref, tout ça pose la question de sa distance vis-à-vis des autorités chinoises.
Alors j'indique qu'une partie des auditeurs voit dans cette enquête une démarche orientée, voire une volonté de fragiliser une éventuelle candidature politique, comme en témoignent ces extraits de messages. Je vous les cite. « Le travail de la cellule investigation est remarquable, mais avec cette enquête sur Dominique de Villepin, j'ai eu l'impression qu'elle avait répondu à une commande, peut-être fais-je erreur. Les affaires de Villepin en Chine sont-elles plus critiquables que celles des hommes d'affaires qui sont allés en Chine avec le président Macron. Il me semble que ces révélations ressemblent à une attaque politique en bonne et due forme. Qui, monsieur de Villepin, inquiéterait-il ? Et puis un autre message nous demande pourquoi lui ? Peut-être est-ce en lien avec son projet d'être candidat en 2027 à l'élection présidentielle. Benoît Colombat, que répondez-vous à cette suspicion ?
Alors, pourquoi lui ? J'ai déjà commencé à répondre. Ce que je répondrai, c'est que l'indépendance dans notre travail, c'est pas juste des mots, ce sont des actes. Il suffit d'écouter et de lire le travail de la cellule d'investigation de Radio France depuis maintenant plus de 10 ans. Et là, je vous renvoie au site d'Inter et à l'appli Radio France. Vous verrez que ces dernières années, nous avons enquêté sur toutes les personnalités politiques et leurs partis, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Notre agenda, il est journalistique, pas politique. Une personnalité politique s'impose dans le débat public. Il est légitime de s'intéresser à elle.
Alors pour autant, certains auditeurs qui connaissent bien votre émission regrettent que des enquêtes similaires ne soient pas menées sur d'autres responsables politiques. Je vous lis un message. Très intéressante émission qui devrait être suivie d'enquêtes de même nature portant sur l'ensemble du spectre des hommes politiques français. Pourquoi se limiter à M. de Villepin ?
Oui, alors il faut préciser que ce type d'enquête demande forcément beaucoup de temps, mais par principe, on n'exclut évidemment rien, on ne se limite bien sûr pas à Dominique de Villepin.
Certains auditeurs disent ne pas comprendre pourquoi ce sujet, selon eux mineur, mobilise une enquête de grande ampleur. Qu'est-ce qui, dans cette affaire, relève de l'intérêt général, Benoît Colomba ?
La proximité d'un responsable politique français avec une grande puissance, que ce soit d'ailleurs la Chine, la Russie ou les États-Unis, c'est une question qui, me semble-t-il, touche à l'intérêt général, surtout quand on se réclame du gaullisme. Je peux citer un autre exemple. En mai dernier, on avait réalisé une enquête sur l'intense lobbying du géant de la mode express, l'entreprise Shein. Et à cette occasion, on était revenu sur le fait qu'elle avait recruté comme conseiller l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Alors, depuis, il a quitté ses fonctions, mais là encore, c'était légitime d'en parler. Ce qui relève aussi de l'intérêt général, c'est que ces grandes puissances, elles exercent des tentatives d'ingérence sur notre sol. On a d'ailleurs également travaillé sur une enquête avec le Consortium international des journalistes d'investigation sur la traque des voix critiques au régime de Pékin sur le sol français. Et je précise enfin, pour être clair là-dessus, que nous avons également enquêté sur l'influence russe, mais aussi américaine, hein, avec par exemple des enquêtes sur la situation au Groenland, sur le géant de l'analyse de données Palantir qui est proche de Donald Trump, ou sur l'extraterritorialité du droit américain. Autrement dit, comment les Américains utilisent la lutte anticorruption pour s'imposer au niveau mondial et écarter leurs concurrents. Et on l'a vu par exemple dans l'emblématique affaire Alstom.
Au-delà de ces questions sur cette enquête de Villepin, Benoît Colomba, nos auditeurs s'intéressent aussi aux coulisses du travail mené par la cellule investigation de Radio France.
Oui, ils s'interrogent sur le fonctionnement de la cellule.
La cellule investigation, c'est une équipe de journalistes qui travaille pour l'ensemble des chaînes de Radio France. C'est une rédaction au milieu des rédactions, en quelque sorte. Alors, on fonctionne en fait sur deux temporalités. Un temps relativement court où on rebondit sur l'actualité avec des informations exclusives. Ces enquêtes, elles sont diffusées dans les journaux de France Inter, mais aussi toutes les tranches d'informations des autres chaînes. Et puis, on travaille sur un temps plus long pour l'émission mensuelle Révélation, donc chaque premier vendredi du mois sur France Inter. Toutes ces enquêtes, on les retrouve évidemment sur le web, mais aussi sous forme de vidéos et même de dessins animés, des vidéos postées sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un écosystème d'investigation.
Qu'est-ce qui distingue le journalisme d'investigation du journalisme quotidien ?
Alors, je vais prendre une image pour vous répondre. Je dirais que le reportage au quotidien, c'est une photo. L'investigation, c'est un scanner. L'idée, c'est de raconter l'envers du décor pour comprendre. C'est un état d'esprit, creuser, ne rien lâcher, et une méthode, prendre du temps, décortiquer un sujet, problématiser, contextualiser, ouvrir des portes et reconstituer un puzzle.
Est-ce vous qui proposez vos enquêtes ou partez-vous parfois de signaux faibles, de documents ou bien de lanceurs d'alerte ?
Les deux, en fait. On peut être contacté par un lanceur d'alerte qui va nous donner des documents. Alors, qu'on va devoir évidemment authentifier et confirmer. Mais parfois, on peut aussi partir de signaux faibles ou même d'une intuition. C'est ce qu'on appelle une enquête d'initiative. On tire un fil qui nous amène sur quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément.
Est-ce qu'il peut y avoir des intox ? Est-ce qu'on peut essayer de vous intoxiquer et de vous communiquer des choses qui sont en fait des fausses pistes ? Est-ce que ça arrive ?
Bien sûr, ça peut arriver. Et c'est toujours le premier réflexe de se dire pourquoi telle personne veut donner cette information ? Comment elle se positionne ? D'où elle parle ? J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de source chimiquement pure. Il y a toujours une intention derrière. Donc la première des choses, c'est connaître l'intention de la personne.
Alors précisément, on arrive là à une question qui intéresse beaucoup les auditeurs. Comment vérifiez-vous la crédibilité d'une source, surtout lorsqu'elle est anonyme ?
D'abord en travaillant sur son profil, vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Il peut arriver qu'on ne donne pas son identité à l'antenne, qu'on la protège, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on ne sait pas qui c'est. Pour nous, une source n'est jamais anonyme. Et ensuite, pour savoir si elle est crédible, il faut croiser ces informations avec d'autres sources.
Et qu'est-ce qui vous permet de décider qu'un sujet mérite une enquête approfondie ?
Alors, à la cellule d'investigation, on part du principe que tous les sujets peuvent être enquêtés. On ne parle pas que des affaires d'État. On a fait, par exemple, une enquête sur le business des ascenseurs qui sont régulièrement en panne. Et ça, c'est un problème qui touche beaucoup les classes populaires, par exemple. Je prends un autre exemple, l'enquête qu'on va diffuser prochainement, le 2 janvier prochain, dans Révélation, sur un escroc au sentiment qui arnaque des femmes seules depuis plus de 20 ans et qui échappe à la police et à la gendarmerie, des femmes qui sont agricultrices, infirmières ou enseignantes. C'est une histoire assez incroyable qui, selon moi, méritait une enquête, parce que là, on ne parle pas de violence physique, c'est sans violence apparente, sauf que la violence, elle est bien là, la vie de toutes ces femmes, elle a volé en éclats, elles ont perdu toutes leurs économies et elles ont honte, finalement, de ce qui leur est arrivé.
Benoît Colomba, comment assurez-vous une forme d'équité ou de pluralisme dans le choix des sujets ?
On essaye, dans la mesure du possible, de s'intéresser à tous les sujets, qu'ils soient politiques, économiques, sportifs, géopolitiques ou culturels. La thématique des violences sexuelles a été très présente dans nos enquêtes la saison dernière, mais c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans la société. C'est effectivement un équilibre qu'on essaye de trouver et qui passe bien sûr par des discussions au sein de la cellule investigation et avec les différentes rédactions des chaînes.
Révélation, l'émission est mensuelle sur France Inter. Benoît Colomba, est-ce que parfois vous vous dites, là il faudrait que ce soit prêt pour vendredi, mais on n'a pas assez d'éléments et donc il faut qu'on creuse encore. Comment on gère ça, le fait d'avoir un rendez-vous régulier à l'antenne, mais il y a aussi le temps de l'enquête qui n'est pas toujours le temps de la diffusion.
Oui, effectivement, il faut que le temps de l'enquête corresponde au temps de la diffusion. On publie une enquête quand elle est prête, par définition. Donc là, le fait d'être en mensuel, évidemment, il y a une forme d'obligation de résultat, mais on s'organise pour publier la bonne enquête, diffuser la bonne enquête au bon moment.
Et comment vous assurez-vous d'être impartial dans une enquête ?
Alors impartial, faire du journalisme, c'est faire des choix. Donc il y a forcément des critères qui contribuent au fait qu'on va s'intéresser à un sujet plutôt qu'à un autre, mais avec une boussole. Est-ce que ça touche à l'intérêt général ? Et ce qu'on essaye vraiment, c'est d'être honnête intellectuellement et scrupuleux, évidemment, dans les faits qu'on rapporte. Et je précise, c'est important, que jusqu'ici, nous n'avons jamais été condamnés en diffamation.
De quelle manière donnez-vous systématiquement la parole aux personnes mises en cause ?
Déontologiquement, on est évidemment tenu de donner la parole aux personnes mises en cause. C'est un principe incontournable. On les contacte pour qu'ils répondent au micro ou sinon par écrit.
Benoît Colomba, question qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Avez-vous déjà subi des pressions de la part d'acteurs politiques, économiques ou judiciaires ?
Alors, c'est rarement visible, mais oui, ça peut arriver. Il y a un exemple qui est connu et que je peux raconter. Ça s'est passé en juin 2017. À l'époque, c'était Jacques Monin qui dirigeait la cellule investigation. On s'apprêtait à publier des révélations sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires européens au MoDem, le parti de François Bayrou, qui est alors garde des Sceaux. François Bayrou est furieux. Il passe alors un coup de fil au directeur de la cellule investigation pour se plaindre de ce qu'il appelle des méthodes inquisitrices. Ça ressemble beaucoup à un coup de fil de pression, mais ça n'a évidemment pas empêché notre enquête de sortir et 15 jours plus tard, François Bayrou a démissionné.
Merci Benoît Colomba d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans le rendez-vous de la médiatrice. Benoît Colomba, directeur de la cellule investigation de Radio France, Emmanuel Davier. Les auditeurs peuvent vous écrire.
Mais bien sûr, pendant leur congé de fête de fin d'année, n'hésitez pas à nous écrire. Le service de la médiation reste ouvert et donc vous allez sur le site de la médiatrice de Radio France pour adresser vos messages et donner vos avis sur les programmes et les journaux d'information.
Merci à tous les deux. 13h46 sur Inter. L'heure de notre feuilleton dans les Pyrénées-Orientales toute cette semaine avec les descendants des Espagnols qui ont fui le franquisme et qui peuvent désormais demander la nationalité de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et cette mémoire se transmet notamment dans les camps où ont été parqués les réfugiés, comme à Rivesaltes, des scolaires le visitent régulièrement. Nous retrouvons sur place la directrice des lieux, Céline Salaponce.
Le vent est peut-être le fil rouge de tous les témoignages, quelles que soient les périodes de ce camp. Cette terrible tramontane, ce vent extrêmement froid l'hiver, extrêmement chaud l'été. D'ailleurs, on voit sur certaines photographies d'internés, le vent les fait ployer physiquement, alors que c'était de jeunes personnes souvent. Bonjour, je m'appelle Céline Salaponce et je suis la directrice du mémorial du camp de Rivesaltes. Il arrive entre janvier et février 1939, presque un demi-million de personnes ici. C'est important de savoir qu'ici, dans le département, il y avait 235 000 habitants qui vivaient ici, dans le territoire. Donc il y a, en 1940, plus de personnes qui sont enfermées que de personnes qui vivent libres dans ce département. Les Espagnols arrivent en 41, dès janvier 41, puisqu'il y a un épisode climatique extrêmement intense, on appelle en catalan, on parle de l'aigat, c'est-à-dire des fortes pluies, qui vont faire que les familles vont arriver ici, surtout les femmes et les enfants vont arriver des camps de la plage, d'Argelès-sur-Mer, du Barcarès. Ils vont donc être ici, à Rivesaltes. Les hommes valides, eux, sont envoyés dans des regroupements de travailleurs, dans des compagnies de travailleurs étrangers. Alors, ce sont des enfants ici du territoire qui viennent des écoles catalanes. Et donc là, aujourd'hui, ils viennent pour assister à une visite en catalan de ce lieu et ensuite à un spectacle. Ce qui est important par rapport aux républicains espagnols, c'est qu'ici, beaucoup de familles se sont structurées
dans le département. Et donc, sociologiquement, crée une architecture très particulière, avec énormément de familles qui sont restées ici sur le territoire. Et par l'inscription de leurs enfants dans des classes, on renoue avec, finalement, leur tradition familiale. Allons dans mon bureau pour que nous appelions Alphonse Aragonés et Saguado, qui était directeur général de la mémoire démocratique pour le gouvernement catalan.
Allô?
Oui, bonjour Alphonse, c'est Céline Salaponce au mémorial du camp de Rivesaltes. J'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses nous éclairer et sur ces applications aujourd'hui en Espagne.
D'accord, il y avait eu en 2007 une autre loi qu'on appelle la loi de mémoire historique, qui reconnaissait les droits des victimes de la dictature, reconnaissait les droits à la vérité, mais qui plaçait la mémoire dans le contexte privé. La loi de 2022 place la mémoire de la guerre civile et de la dictature au centre des politiques d'État. Maintenant, le législateur espagnol dit, même si vous habitez en Argentine ou en France, vous avez le droit à former partie de notre communauté. Au moment actuel, il y a des centaines de milliers de demandes de nationalité qui viennent de pays d'Amérique latine, mais il y a aussi des milliers de demandes qui arrivent en Espagne, de la France et d'autres pays européens.
Merci Alphonse, ça c'était vraiment très clair, très précis. Mais alors pour nous, c'est très important. Aujourd'hui, un visiteur sur deux qui vit au mémorial du camp de Rivesaltes a moins de 18 ans. Et l'axe éducation est pour nous fondamental. C'est par la transmission qu'on pourra éclairer le passé pour mieux accompagner la jeunesse à se forger une opinion citoyenne. Ici, on ne fait pas la leçon, on apprend à réfléchir.
Cinquième et dernier épisode de notre feuilleton Une semaine dans leur vie que vous retrouvez sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h50, la France des cimes et des océans, avec Virginie Troussier. Virginie, Charlie Dalin a donc gagné cette semaine le prix de marin de l'année, mais la windsurfeuse Justine Lemétayer aurait aussi mérité de l'emporter.
Justine Lemétayer, ces dernières semaines, c'est d'abord un visage. Un visage filmé il y a un mois au Japon, un visage traversé d'émotions. Elle vient d'apprendre qu'elle remporte pour la deuxième fois la Coupe du Monde de slalom foil, alors qu'elle n'y croyait plus. Le slalom foil, c'est une planche à voile dotée d'un foil qui permet de voler sur l'eau. Dans ce visage apparaît toute l'intensité de sa dernière navigation. Des trajectoires sur le fil, l'électricité qui traverse les nerfs, les bras. Sur l'eau, la tension compacte le corps, muscles, tendons, tissus épaissis par l'effort. Et ce visage, filmé au plus près, reste traversé de fragilité. On y perçoit la trace de ces instants où la sensation suspend la pensée dans la caresse incisive du vent.
Et ce vent, elle l'a apprivoisé à Ouistreham, en Normandie.
Oui Jérôme, Justine Lemétayer est licenciée au club de Ouistreham à une quinzaine de kilomètres de Caen, sur la côte de Nacre. Le club se tient près de la capitainerie, bâtiment aux allures de tour de contrôle. L'hiver donne à Ouistreham un autre visage. La brume recouvre les digues, le ciel s'abaisse jusqu'à la mer, l'humidité transperce les eaux. Les plages se vident, tout devient frontal. Le sifflement du vent, la vitesse avec laquelle les sons s'imposent, la rumeur continue de la mer, crée une atmosphère hostile. Mais les planchistes aguerris se frottent les mains. L'océan venté a une couleur imprégnée de beauté violente. Ce n'est pas un paysage de carte postale, c'est une mer gris-vert, une houle dentelée, des dunes basses et des ferries qui surgissent. En planche à voile, on l'observe beaucoup, ce paysage, mais surtout, on s'y inscrit.
Oui, car ce qui domine, c'est tout de même la vitesse.
Exactement, quand elle navigue, ça pulse, le pouls palpite, la voile claque. Le bruit de la planche est là pour rythmer le sang dans les veines et la pompe du cœur. Il existe différentes pratiques, la vague et la vitesse. Justine Lemétayer pratique plutôt la vitesse. Il y a des planches avec des ailerons, la planche est alors proche de l'eau, elle fend les vagues, et depuis quelques années, il y a des modèles équipés d'un foil, une dérive porteuse dont le fonctionnement ressemble à celui d'une aile d'avion qui fait voler la planche à 1 mètre de l'eau. Le record de Justine Lemétayer, c'est 60 km à l'heure. Cela demande une concentration extrême et des mouvements précis. Mais Justine Lemétayer le décrit bien, rien ne vaut la sensation de glisse. Cette liberté-là, une fois qu'on l'a goûtée, on ne peut plus s'en passer.
Que transmet-elle au-delà de la performance?
Dans un sport où les femmes restent largement minoritaires, elles ne représentent que 10% des pratiquantes, Justine Lemétayer nous invite à la suivre, parce qu'elle transmet des intensités. Le philosophe Tristan Garcia, dans son livre « La vie intense » qui vient de reparaître dans une nouvelle édition, s'interroge. Qu'est-ce que l'intensité de ma sensation ? ce dont je ne peux rendre compte aux autres, mais qui m'assure, pour cette raison même, que ma sensation, au moins, est à moi. Ce sport mobilise cette expérience très singulière de résonance, c'est-à-dire ce moment où quelque chose se met à vibrer entre soi et le monde.
Merci Virginie Troussier. Chaque vendredi, dans ce C'est la France. De C'est la France à C'est une chanson, c'est l'acteur et chanteur Esteban que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Esteban qui tient le rôle principal du film Va des rétro, comédie épouvante qui sortira au cinéma le 31 décembre. Et avec lui, nous avons parlé d'une chanson de Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
On la connaît tous cette chanson, on l'a déjà entendue, on se l'est fredonnée et tout. Mais en fait, j'ai vraiment réalisé son pouvoir. À un moment, moi j'habitais à Château-Rouge et je crois que c'était en 2017, il y avait un peu des manifs, enfin un peu plus, voire limite émeute, quoi, dans mon quartier, en plein Château-Rouge.
Château-Rouge, c'est un quartier à Paris.
Un quartier à Paris, voilà. Il y avait des CRS, il y avait des manifestants, ça piquait un peu les yeux, il y avait de la lacrymo, donc il fallait commencer un petit peu à fermer les fenêtres, tout ça. Bon, on n'avait pas du tout envie de sortir, aller acheter une baguette de pain. D'ailleurs, tous les commerçants avaient fermé. Et puis là, un immeuble voisin, on commence à entendre une musique hyper fort. Et c'était Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Et puis je vois que mon voisin d'immeuble, il avait vraiment mis ses énormes enceintes, des grosses enceintes de studio, sur son balcon. Et il passait ce titre à fond. Et puis, bah, ça contrastait vachement avec ce qu'on voyait en bas, avec ces gens qui étaient en train de se battre avec les CRS, quoi. Et puis d'un coup, il y a eu un mood un peu bizarre. Donc je vois des manifestants qui regardent au balcon voir d'où ça vient, qui ont un peu des sourires aux lèvres, et même des flics, pareil. Et donc en fait, je dis pas que la manif, elle s'arrête d'un coup non plus, mais en fait, c'est une accalmie, quoi. Comme s'il y avait un gros rayon de soleil qui traversait des nuages assez durs, et c'était assez magique, en fait, comme moment.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
1988, Frédéric, pour ce tube de Bobby McFerrin.
Un tube qu'Esteban a d'ailleurs beaucoup, beaucoup entendu durant les semaines et les mois qui ont suivi cet épisode de la manifestation.
Ma copine, dès que elle me sentait un peu soucieux ou si on se prenait la tête, bah, elle passait le morceau et puis tout de suite, bah, y a un côté, t'as pas du tout envie de t'embrouiller quand il y a ce morceau qui passe. Voilà, c'était mon vécu avec ce track.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dès que vous entendez cette chanson-là, non seulement elle vous rappelle ce moment auquel vous avez assisté, mais elle a toujours le même pouvoir de vous calmer?
Ah bah ouais, non mais vraiment, et c'est pas une blague, ma copine, dès qu'il y a un truc qui me stresse, machin, elle me met le truc sans me dire qu'elle le met, et puis d'un coup, bah, le message y passe en fait, don't worry, be happy, tu vois, et il y a un truc, je pense, organique, intrinsèque à ce morceau, qui fait que il y a un truc un peu de battement de cœur qui ralentit, qui prend le temps de vivre. Et ouais, je trouve qu'elle a toujours cette efficacité et je l'écoute assez souvent et elle a toujours ce côté magique et cette pause dans le temps de te dire « Attends, vas-y, pose les choses, tout est cool en fait ». Et même, je me l'applique parfois de me dire « Ah bah vas-y, je souris même s'il y a un truc qui me stresse ou quoi ». Et bah, rien que le fait de sourire, ça t'induit aussi une sorte de mood dans ton corps, quoi.
Et puis le sourire amène le sourire des autres également.
Oui, c'est vrai que elle parle de ça aussi, cette chanson. Et c'est ce qu'on voyait d'ailleurs en bas de la rue quand il y avait ces manifs. Je voyais que ce sourire qui naissait sur certaines lèvres, il était contagieux, quoi.
'Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy.
Est-ce que finalement, il ne faudrait pas diffuser ce titre-là dans toutes les situations un petit peu compliquées, dans toutes les manifestations qui tournent mal?
Ben, en fait, s'il y avait un, oui, une sorte de grosse enceinte qui diffusait ce son pendant les manifs, peut-être que ce serait plus utile qu'un canon à eau qui fait super mal ou des balles en caoutchouc qui peuvent crever des yeux. Je ne sais pas. En tout cas, ça mériterait d'être essayé parce que forcément, il y a un truc bizarre, quoi. Moi, je vois un gros camion de CRS qui diffuse ça sur des énormes enceintes. T'es là, ben, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous attaquent à coups de musique douce. Ce serait pas mal.
Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. C'était donc Frédéric, le choix de l'acteur Esteban.
Esteban, que vous pourrez retrouver au cinéma le 31 décembre dans le film Va des Rétro.
Merci Frédéric et à lundi pour une semaine spéciale. Charles Aznavour, au générique de ce 13-14 cette semaine. À la rédaction en chef, Mathilde Inverti, Corinne Boulou et Sébastien Sabiron. Assisté de Sylvain Lesage, Nicolas Sabat, Souad Bellani, Rachid Zourdani et Matteo Bardio. À la technique, Philippe Duclos et Fabrice Desmaz. Merci à nos standardistes ainsi qu'à notre stagiaire Zoé Pin-Moreton. Lundi, Kevin Dufraîche sera aux manettes de ce 13-14. Merci de lui réserver le meilleur accueil.